Bonjour à tous, frères et sœurs en Christ. Selon la Bible, sommes-nous prédestinés ou sommes-nous responsables? Ce sont deux termes qui s'opposent, qui sont opposés, diamétralement opposés, qui se contredisent en quelque sorte. Il importe avant tout de définir ce que la Bible entend par prédestination. De nos jours, quand on utilise ce terme, on pense généralement que notre sort final est déjà scellé d'avance par Dieu, de sorte que notre vie se déroule d'une certaine manière, sans que nous puissions rien y changer. Est-ce ce que la Bible déclare? Comprenant mal ce que révèlent les Saintes Écritures à ce sujet, des millions d'individus, au fil des siècles, ont pensé qu'ils étaient soit bénis, soit maudits d'avance, condamnés d'avance. Or, que déclarent les Écritures à propos de la prédestination? Il importe à tout prix que nous le sachions. Et incidemment, quand je parle des Saintes Écritures, je veux parler de la Bible, parole infaillible et inspirée de Dieu dans sa forme originale, et non d'écrits humains ou de soi-disant pères de l'Église, lesquels contredisent souvent les Écritures. Commençons par définir le mot « destiné ». En effet, on parle souvent de notre destinée comme si ce qui nous arrive était prévu d'avance. D'après l'internaute.fr, le mot « destiné » a trois sens. Premièrement, c'est le destin, la puissance qui réglerait à l'avance le cours des choses à venir, et il y a ici une idée de fatalité en quelque sorte. Deuxième sens, la destinée, c'est aussi la vie d'une personne, son existence. Troisièmement, la destinée, c'est aussi le sort, l'avenir de quelque chose en particulier. La deuxième définition semble être la plus générique, celle qui est la plus utilisée, dans l'esprit des gens du moins, parce que souvent ce que les gens pensent n'est pas tout à fait ce que le dictionnaire nous donne comme définition, n'est-ce pas? Mais en fonction du contexte, la notion de prédestination est donc présente ou absente. Mais souvent, quand on parle de destinée, on parle de l'avenir d'une personne, sans plus. En revanche, quand on parle de prédestination, il est clairement question de notre sort, supposément prévu d'avance. Consultons aussi pour ce mot un dictionnaire. Selon l'internaute.fr, la prédestination est, je cite, « une doctrine selon laquelle Dieu destinerait chaque homme au salut ou à la damnation ». Selon Larousse.fr, la prédestination est, je cite, « un décret éternel de Dieu concernant la fin dernière », et entre parenthèses, ils ont écrit « béatitude éternelle ou damnation », fin de parenthèse, « de la créature humaine ». Et quel que soit le dictionnaire que vous consultez, vous lirez essentiellement la même chose. Les penseurs et les philosophes ont diverses idées, souvent opposées, de notre supposée destinée. Un jour en amène un autre, et l'avenir est dans les mains de la destinée, disait Goethe. L'homme décide de sa propre destinée, il fait la route sanglante ou facile. Il peut barrer, faire dévier ou écumer un instant le fleuve de l'histoire, mais il ne lui fait pas rebrousser chemin, il ne peut faire fléchir les décrets de la Providence. Le but est inévitable, prédestiné, mais le moyen dépend de l'homme. Sans lui, avec lui ou malgré lui, la volonté suprême s'accomplit. C'est ce que disait Henri Frédéric Amiel. Un regard décide quelquefois de la destinée, disait La Rochefoucauld. Bien des hommes boivent, mangent, dorment sans penser à leur destinée, disait Pierre-Claude Victor Boist. On n'arrange pas sa destinée, on la subit, disait Gustave Flaubert. Si petite que soit notre destinée, la bonté de Dieu s'y fait une large place, disait John Petitsen. Un homme placé au dernier rang de la société ne doit plus demander compte à Dieu de sa destinée qu'une huître de la sienne. Intéressant, c'est ce qu'a écrit Honoré de Balzac. Être maître de soi, c'est être indépendant d'autrui et arbitre de sa destinée, a encore écrit Henri-Frédéric Amiel. Cet homme semble se contredire avec deux citations de lui, n'est-ce pas? Comme quoi, on voit bien qu'il y a toutes sortes d'idées qui circulent, n'est-ce pas? Du même auteur encore. « Le hasard me révolte dans la destinée. Mettre mon bonheur à la loterie me paraît monstrueux et même indigne de moi, car c'est accepter la domination d'un maître qu'il m'est impossible de respecter. » Intéressant. Mais finalement, ce sont un peu des échantillons de ce que pensent souvent les gens, n'est-ce pas? Toujours du même auteur. La vie est une apparition météorique qui a une certaine indétermination de durée. Par la manière dont l'être se gouverne, il précipite ou prolonge la durée du phénomène. Son savoir-faire et son courage ne font pas sa destinée, mais y contribuent. Le tourment des précautions l'emporte sur le danger que l'on veut éviter. Il vaut mieux s'abandonner à sa destinée, disait Napoléon Bonaparte. Les avis ne manquent donc pas à propos de l'idée que l'on se fait de la destinée. Et destin, destinée et prédestination vont souvent de pair. On se dit que ce qui nous arrive a plus ou moins été déterminé d'avance. Certains parlent des caprices des dieux, de leurs dieux évidemment, des fausses divinités. D'autres parlent de la volonté de Dieu, du Dieu de la Bible. Et dans la plupart des cas, d'après l'Écriture, ils ont tort. La question est de savoir si la doctrine de la prédestination est biblique. On le prétend, mais est-ce bien le cas? La deuxième étape à franchir est de vérifier l'original grec pour savoir si, dans le Nouveau Testament, le verbe « prédestiner » a le sens qu'on lui donne généralement. Reportons-nous pour commencer à l'épître de Paul aux Éphésiens. Éphésiens chapitre 1 et le verset 1. Éphésiens chapitre 1 et le verset 1. Paul commence par se présenter et donne ses qualifications. Il écrit « Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu ». Est-il écrit que Paul a été prédestiné, dans le sens qu'on donne généralement et à tort, à ce mot? Il dit aux Éphésiens, et il nous dit à nous, qui vivons en ce 21e siècle, qu'il a été choisi par Dieu. C'est différent. Et au verset 4, il indique que nous avons tous, nous autres chrétiens, pareillement été choisis par Dieu. Verset 4. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Il nous a prédestinés, ah, voici ce mot, il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, pour célébrer la gloire de sa grâce dont il nous a favorisés dans le bien-aimé, sous-entendu le bien-aimé étant Christ. Il se trouve dans ce passage plusieurs mots-clés. Il est écrit que Dieu nous a élus avant la fondation du monde et qu'il nous a prédestinés. Cela veut-il dire que Dieu, il y a plusieurs millénaires, a décidé qui, de tous les êtres humains, serait sauvé et qui serait condamné? Avait-il en tête des individus précis? Savait-il d'avance que vous et moi, nous ferions partie de son Église? Et a-t-il décidé que nous serions sauvés et que d'autres individus, dont il connaissait déjà le nom, seraient condamnés? Ce n'est pas ce que Paul veut dire ici. Il veut simplement dire que dès le départ, avant même d'avoir créé le monde tel que nous le connaissons, Dieu avait un plan. Il avait tout prévu et dans ce plan, il avait prévu d'appeler un petit nombre d'individus qui allaient être en mesure de se préparer à aider le restant de l'humanité à entrer dans sa famille. Première phase. Dieu allait en appeler certains dans le temps présent. Et pas d'autres. Tous auraient leur chance, mais il avait prévu d'en appeler seulement un petit nombre dans l'ère présente. Ce plan, il l'avait élaboré avant la fondation du monde. Paul ne dit pas que Dieu connaissait votre nom avant la fondation du monde, qu'il vous connaissait déjà en tant qu'individu et qu'il allait vous appeler. Ce n'est pas le sens de l'original grec. Dieu ne savait pas que vous, en tant que personne vivant en ce 21e siècle, vous seriez appelé. Il ne vous connaissait pas de nom d'avance. Quand je dis d'avance, c'est-à-dire hein, plusieurs centaines d'années, plusieurs milliers d'années, etc. Dieu savait que ces personnes qu'il appellerait devraient être saintes. Bon, c'est vrai. Elles devraient se détacher du monde, lui obéir et croître dans la grâce et dans la connaissance de sa voix. C'est évidemment Dieu qui choisit, Dieu qui appelle. Mais il n'y a aucune indication dans le texte que Dieu ait su il y a 100 ans, 300 ans ou 2000 ans ou plus qu'il vous appellerait, qu'il nous appellerait. Ce n'est pas ce que déclare l'Écriture. De plus, comme l'indique le verset 4, nous avons été appelés à être saints et irréprochables. C'est ce qui identifie le vrai chrétien, tout vrai chrétien. Il vit dans le monde, mais il n'est pas de ce monde. Il est différent des autres. On le remarque et souvent on le hait de ce qu'il est différent des autres, de la majorité des êtres humains. Mais Dieu nous a appelés à être saints et irréprochables. Amomos, A-M-O-M-O-S, Amomos, est le mot grec pour irréprochable. C'est un mot qui est associé au sacrifice. Les animaux offerts en sacrifice devaient être sans défaut. L'idée est que dans tous les aspects de sa vie, le vrai chrétien devrait avoir le meilleur comportement et les meilleures pensées possibles. Il n'est pas question de perfection. Nul n'est parfait. Mais il est question d'être le plus juste possible. Nous devons faire en sorte que nos vies, sous tous ces aspects, reflètent la vérité, l'honnêteté, la pureté. Nous ne pouvons pas, contrairement à ce qu'enseignent certaines églises, rester tels que nous sommes. Nous devons changer. Nous devons croître. Et à nouveau, ces termes contredisent l'idée d'une prédestination. Quand on est prédestiné, selon la définition que le monde donne de ce mot, et c'est comme si tout ce que l'on faisait n'avait aucune importance parce que c'est déjà écrit, alors finalement, nous n'avons aucun pouvoir de décision. Or, toute la Bible parle dans le sens contraire de cette prédestination selon la définition que le monde lui donne, n'est-ce pas? Revenons maintenant au verset 5. Qui lit-on? Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. Nous avons donc été, soi-disant, prédestinés, n'est-ce pas? Incidemment, quand on nous demande si nous croyons à la prédestination, la réponse est oui, mais à la prédestination telle que l'enseigne la Bible, et non pas l'idée que se fait le monde de la prédestination. En grec, le verbe traduit en français par prédestiné est proorizo, c'est P-R-2-O-R-I-Z-E-O, proorizo. Et proorizo a plusieurs sens, et notamment le sens de prédéterminer, mais aussi de décider d'avance. On voit cela d'après la définition que nous trouvons dans le dictionnaire complet de Vine des mots de l'Ancien et du Nouveau Testament à la page 165. Autrement dit, proorizo, c'est prévoir. Ah, il y a déjà une différence de sens, n'est-ce pas? Prévoir, décider d'avance. Et ce mot ne contient pas nécessairement la notion de décider d'avance du sort de quelqu'un de précis, individuellement. Il a souvent été traduit par prédestiné, mais ce n'est pas nécessairement le sens qu'on donne généralement à ce mot, n'est-ce pas? Il est intéressant de noter que ce mot, proorizo, se trouve aussi dans Actes 4, 28. Reportons-nous à ce passage pour voir comment il est traduit dans la plupart de nos versions françaises. Actes 4 et le verset 27. Actes chapitre 4 et le verset 27. En effet, contre ton saint serviteur Jésus que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël, pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. prorizo. Ici, le mot est traduit par arrêter d'avance. On voit donc que les traducteurs ne sont pas toujours très conséquents dans la façon dont ils traduisent les choses, n'est-ce pas? Arrêter d'avance, décider d'avance, etc. Ce mot prorizo se trouve aussi dans les quatre versets suivants, Romains chapitre 8, les versets 29 et 30, et Éphésiens chapitre 1 et le verset 5 que nous venons de lire, et aussi le verset 11 dans Éphésiens 1. Reportons-nous à Romains chapitre 8 et le verset 29. Romains chapitre 8 et le verset 29. Vous savez, on doit toujours se dire que la Bible ne se contredit pas. Et la doctrine de la prédestination telle que le monde la conçoit contredit toute la Bible. La Bible parle de choix, de responsabilité individuelle. Bon, il est bien certain que quelqu'un qui est séduit n'est pas tout à fait responsable, mais il est quand même responsable dans une certaine mesure. La Bible de la Genèse à l'Apocalypse nous montre que les hommes sont responsables de leur choix et qu'il leur arrive des bonnes choses et des mauvaises choses, qu'ils sont soit bénis, soit maudits en fonction de leur choix, de leurs décisions. Vous et moi, nous prenons des décisions chaque jour, nous faisons des choix. Et en fonction de ces choix, nous récoltons de bonnes choses ou de mauvaises choses. Et c'est cela qu'il faut bien comprendre, c'est ce que toute la Bible déclare, c'est que nous sommes responsables. Adam et Ève étaient responsables de leurs décisions. Bon, est-ce qu'ils comprenaient quelles seraient toutes les conséquences? Probablement pas, j'en doute fort. Mais ça n'empêche qu'ils étaient responsables. Bon, Dieu est miséricordieux, donc il peut nous pardonner nos mauvais choix, c'est vrai. Mais nous sommes responsables, frères et sœurs. Ne soyons pas des lâches en disant que « Oh, c'est la destinée » ou « c'est le destin » ou etc., etc. Non, vous et moi, nous sommes responsables. Mot-clé, nous sommes responsables de ce que nous faisons. Responsables de nos idées, responsables de nos choix. Romains chapitre 8, versets 29 et 30. Que lisons-nous dans la plupart des versions ? Ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils, afin que son fils soit le premier-né de plusieurs frères, ou d'un grand nombre de frères serait une meilleure traduction. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés, et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Revenons à Éphésiens chapitre 1, le verset 5. Maintenant, Éphésiens chapitre 1 et le verset 5. Éphésiens 1, 5. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. Nous reviendrons sur ce mot adoption un peu plus tard. Verset 11. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Si l'on se base sur l'idée que l'on se fait généralement de la prédestination, selon la définition du monde, il semble que ces versets la confirment, n'est-ce pas? Mais nos versions modernes ont-elles bien traduit l'idée de Paul et le mot grec « prorizo » Reprenons ces versets, Romains chapitre 8, versets 29 et 30, mais cette fois consultons une autre version française que nous ne consultons pas tellement souvent parce qu'elle n'est pas des meilleures, mais cette fois-ci, ce qu'elle nous dit est intéressant. La Bible en français courant, Romains chapitre 8, versets 29 et 30, Dieu les a choisis d'avance. Vous voyez la différence? Les traducteurs, cette fois-ci, ont traduit autrement. Dieu les a choisis d'avance, il a aussi décidé d'avance. Ah, intéressant, décidé d'avance de les rendre semblables à son fils, afin que celui-ci soit l'aîné d'un grand nombre de frères. Ceux pour qui Dieu a pris d'avance cette décision, intéressant la manière dont ils ont tourné cela cette fois-ci, n'est-ce pas? Pour ceux pour qui Dieu a pris d'avance cette décision, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi rendus justes devant Dieu. Ceux qu'il a rendus justes, il leur a aussi donné part à sa gloire. Intéressant. Intéressant. À la lecture de cette version, on a davantage le sentiment que Dieu avait décidé d'avance, certes, mais qu'il en appellerait un certain nombre dans le futur, sans toutefois connaître leur nom d'avance. Intéressant. Prenons maintenant la version parole de vie. À nouveau, parole de vie, ce n'est pas nécessairement une version que nous retenons très souvent, mais quelquefois, ils ont des bonnes choses. Il est bon toujours de regarder plusieurs versions. Dans la version parole de vie, on peut lire ceci, « Ce que Dieu a enveloppé d'avance dans son plan d'amour, il les a aussi destinés, depuis le commencement, à porter son image. Il a décidé de faire d'eux ses enfants au même titre que son propre fils et de les façonner pour qu'ils lui ressemblent, afin qu'ils soient l'aîné d'une nombreuse famille de frères. Ceux à qui Dieu a réservé d'avance une telle destinée, il les a aussi appelés à venir à lui. Ceux auxquels il a adressé son appel ont aussi été déclarés justes. » Et ceux qu'il a fait accéder à cette justice et à cette vie nouvelle ont été revêtus de la beauté et de la sainteté. Dieu leur a accordé leur part de la gloire, sous-entendu la gloire céleste. Les autres versions que j'ai consultées traduisent pratiquement comme la nouvelle édition de Genève que nous utilisons régulièrement. Mais ce qui est intéressant avec ces deux versions que nous venons de consulter, c'est qu'elle révèle que ces versets peuvent être pris de manière moins dogmatique, n'est-ce pas, à propos de cet aspect d'une soi-disant prédestination, et sans l'idée de fatalité évoquée dans la plupart des autres versions. Ce que ces versets ne déclarent pas, selon l'original, c'est que Dieu connaissait d'avance, par nom, et individuellement, ceux qu'il allait appeler. Ce n'est pas le sens qu'il y a dans l'original. Ce qu'il révèle, c'est que Dieu avait prévu qu'il en appellerait, que ceux qu'il appellerait, il les justifierait, puis il les glorifierait. Un point, c'est tout. Et cette interprétation est confirmée par le restant de la Bible. En effet, à nouveau, de la Genèse à l'Apocalypse, il est question de choix. Il est question de cause à effet. Dieu nous dit de faire les bons choix pour entrer dans son royaume. Il ne dit nulle part que notre sort a été prédéterminé, décidé d'avance. Il indique clairement que nous sommes bénis si nous lui obéissons et maudits si nous lui désobéissons. Que nos actes ont des conséquences positives ou négatives, n'est-ce pas ? La première explication biblique à la prédestination est donc une explication sémantique, pourrait-on dire. Ces versets sont souvent mal traduits, les traducteurs ayant une idée préconçue de Dieu, et les gens ayant une idée humaine et non biblique de la prédestination. Dans l'idée de destinée ou de destin, il y a la conception que nos décisions et notre sort ont été arrangés d'avance, ce qui est totalement contraire à ce qu'enseigne la Bible qui, elle, met l'accent sur notre responsabilité, mot-clé à nouveau, sur notre responsabilité, sur nos choix et sur leurs conséquences. Jean Calvin, l'un des architectes de la réforme protestante qui eut lieu il y a environ 500 ans, et fondateur de l'Église presbytérienne, enseignait que les êtres humains étaient soit sauvés d'avance, soit, soit condamnés, peu importe les décisions qu'ils prenaient dans la vie. Qu'ils étaient sauvés d'avance ou condamnés d'avance à une éternité en enfer. Si on est honnête avec les Écritures, on ne trouvera jamais de tel concept dans la Bible. Je dis bien si nous sommes honnêtes avec les Écritures. Beaucoup de gens ne sont pas honnêtes avec les Écritures. Ils lisent ce qu'ils veulent y lire et ils mettent leurs idées dans ce qu'elle dit, mais ce n'est pas juste. On ne peut pas faire dire à la Bible ce qu'elle ne dit pas. Rappelez-vous les instructions divines à Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Ils ne devaient pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Sinon, ils allaient mourir. Dieu les avait prévenus. Cause à effet, conséquence, choix, décision, conséquence. À Caïn, Dieu donna l'avertissement suivant, lui laissant le choix. Reportons-nous à Genèse chapitre 4 et le verset 7. Genèse chapitre 4 et le verset 7. Si, petit mot important, si tu agis bien, ce petit mot indique un choix. Si il y a une décision, un choix, si tu fais le choix, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Un choix. Fais le choix de dominer sur lui. Tu es responsable de ce que tu fais. Il est clairement question ici de choix personnel, individuel, de responsabilité individuelle, n'est-ce pas? À Israël, Dieu donna également un choix, Deutéronome 30, Deutéronome chapitre 30. Vous voyez, de la Genèse à l'Apocalypse, la Bible parle de choix et de conséquences pour ces choix. La Bible nous montre que les êtres humains sont responsables. Deutéronome chapitre 30 et le verset 19. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort. La vie et la mort. La bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives. Toi et ta postérité, choisis la vie. Fais le bon choix pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui, car de cela dépendent ta vie et la prolongation de tes jours, et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Tout est question de choix et de conséquences ici, n'est-ce pas, dans ces deux versets. Dans Deutéronome 28, le chapitre des bénédictions et des malédictions, il est fortement question de choix. Premièrement, Dieu expliqua à Israël ce qu'il adviendrait de lui s'il obéissait. Reportons-nous à Deutéronome 28 et le verset 1. Une page avant, c'est pas loin, pas beaucoup de pages à tourner, n'est-ce pas? Deutéronome chapitre 28 et le verset 1. Si, à nouveau ce petit mot, si tu obéis à la voix de l'Éternel, si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Obéissance, conséquence, bénédiction. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Le fruit de tes entrailles, tes enfants en quelque sorte, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi, et ils sortiront contre toi par un seul chemin, et ils s'enfuiront devant toi par sept chemins. L'Éternel donnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme il te l'a juré, lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel, lorsque tu feras ce choix. Lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel ton Dieu et que tu marcheras dans ses voies. Tous les peuples verront que tu es appelé du nom de l'Éternel et ils te craindront. L'Éternel te comblera de bien en multipliant le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol dans le pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. Est-ce qu'il est question de prédestination ici dans tous ces versets? Oh non! Il est question de choix, de responsabilité, n'est-ce pas? L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas lorsque tu obéiras aux commandements de l'Éternel, ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu les observeras et que tu les mettras en pratique, lorsque tu feras ces choix, les bons choix, et que tu ne te détourneras ni à droite ni à gauche de tous les commandements que je vous donne aujourd'hui pour aller après d'autres dieux et pour les servir. Telles étaient les bénédictions que l'Éternel allait accorder à son peuple s'il lui obéissait, s'il lui demeurait fidèle, s'il faisait le bon choix. Le peuple était responsable. Ensuite, l'Éternel précise ce qui se produirait si le peuple lui désobéissait n'en faisant qu'à sa tête. Verset 15. Mais si tu obéis, si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ses commandements et toutes ses lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Tu seras maudit dans la ville et tu seras maudit dans les champs. Ta corbeille et ta huche seront maudites. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront maudites. Tu seras maudit à ton arrivée et tu seras maudit à ton départ. L'Éternel enverra contre toi la malédiction, le trouble et la menace au milieu de toutes les entreprises que tu feras jusqu'à ce que tu périsses promptement à cause de la méchanceté de tes actions qui t'aura porté à m'abandonner. Regardez, comme il est question toujours de choix ici, de comportement, de choix que nous prenons. L'Éternel attachera à toi la peste jusqu'à ce qu'elle te consume dans le pays dont tu vas entrer en possession. L'Éternel te frappera de langueur, de fièvre, d'inflammation, de chaleur brûlante, de dessèchement, de jaunisse et de gangrène qui te poursuivront jusqu'à ce que tu périsses. Le ciel sur ta tête sera d'airain et la terre sous toi sera de fer. L'Éternel enverra pour pluie à ton pays de la poussière et de la poudre. Il en descendra du ciel sur toi jusqu'à ce que tu sois détruit. L'Éternel te fera battre par tes ennemis. Tu sortiras contre eux par un seul chemin et tu t'enfuiras devant eux par sept chemins. Et tu seras un objet d'effroi pour tous les royaumes de la terre. Ton cadavre sera la pâture de tous les oiseaux du ciel et des bêtes de la terre. Il n'y aura personne pour les troubler. L'Éternel te frappera de l'ulcère d'Égypte, d'hémorroïdes, de gales et de teignes, dont tu ne pourras guérir. L'Éternel te frappera de délire, d'aveuglement, d'égarement d'esprit, et tu tâtonneras en plein midi comme l'aveugle dans l'obscurité. Tu n'auras point de succès dans tes entreprises, et tu seras tous les jours opprimé, dépouillé, et il n'y aura personne pour venir à ton secours. Tu auras une fiancée, un autre homme couchera avec elle. Tu bâtiras une maison et tu ne l'habiteras pas. Tu planteras une vigne et tu n'en jouiras pas. Ton bœuf sera égorgé sous tes yeux. Tu n'en mangeras pas. Ton âne sera enlevé devant toi et on ne te le rendra pas. Tes brebis seront données à tes ennemis et il n'y aura personne pour venir à ton secours. Quand tu feras ces choix, quand tu auras cette attitude, quand tu te rebelleras contre l'Éternel, tes fils et tes filles seront livrés à un autre peuple. Tes yeux le verront et languiront tout le jour après eux, et ta main sera sans force. Un peuple que tu n'auras point connu mangera le fruit de ton sol et de tout, et tout le produit de ton travail, et tu seras tous les jours opprimé et écrasé. Le spectacle que tu auras sous les yeux te jettera dans le délire. L'Éternel te frappera aux genoux et aux cuisses d'un ulcère malin dont tu ne pourras guérir. Il te frappera depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. L'Éternel te fera marcher, toi et ton roi, et tu auras établi sur toi vers une nation que tu n'auras point connue, ni toi ni tes pères. Et là tu serviras d'autres dieux, du bois et de la pierre. Et tu seras un sujet d'étonnement, de sarcasme et de raillerie parmi tous les peuples chez qui l'Éternel te ramènera. Tu transporteras sur ton champ beaucoup de semences et tu feras une faible récolte, car les sauterelles la dévoreront. Tu planteras des vignes et tu les cultiveras. Tu ne boiras pas de vin et tu ne feras pas de récolte, car les vers la mangeront. Tu auras des oliviers dans toute l'étendue de ton pays, et tu ne t'oindras pas d'huile, car tes olives tomberont. Tu engendreras des fils et des filles, et ils ne seront pas à toi, car ils iront en captivité. Les insectes prendront possession de tous tes arbres et du fruit de ton sol. L'étranger qui sera au milieu de toi s'élèvera toujours au-dessus de toi, et toi, tu descendras toujours plus bas. Il te prêtera et tu ne lui prêteras pas. Il sera la tête et tu seras la queue. Toutes ces malédictions viendront sur toi, elles te poursuivront et seront ton partage jusqu'à ce que tu sois détruit parce que tu n'auras pas obéi à la voix de l'Éternel ton Dieu. Cause à effet. Parce que tu n'auras pas observé ses commandements et ses lois qu'il te prescrit. Elles seront à jamais pour toi et pour tes descendants comme des signes et des prodiges. Pour n'avoir pas au milieu de l'abondance de toutes choses servi l'Éternel ton Dieu avec joie et de bon cœur, tu serviras au milieu de la faim, de la soif, de la nudité et de la disette de toutes choses tes ennemis que l'Éternel enverra contre toi. Il mettra un joug de fer sur ton cou jusqu'à ce qu'il t'ait détruit. L'Éternel fera partir de loin des extrémités de la terre une nation qui fondra sur toi d'un vol d'aigle, une nation dont tu ne comprendras point la langue. Une nation au visage farouche et qui n'aura ni respect pour le vieillard, ni pitié pour l'enfant. Elle mangera le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol, jusqu'à ce que tu sois détruit. Elle ne te laissera ni blé, ni boue, ni mou, ni huile, ni portée de ton gros et de ton menu bétail, jusqu'à ce qu'elle t'ait fait périr. Elle t'assiégera dans toutes tes portes, jusqu'à ce que tes murailles tombent, ces hautes et fortes murailles sur lesquelles tu auras placé ta confiance dans toute l'étendue de ton pays. Elle t'assiera dans toutes les portes, dans tout le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Au milieu de l'angoisse et de la détresse, où te réduira ton ennemi, tu mangeras le fruit de tes entrailles. Comme c'est triste, comme c'est incroyable, mais cela va se produire. La chair de tes fils et de tes filles que l'Éternel ton Dieu t'aura donnée. L'homme d'entre vous le plus délicat et le plus habitué à la mollesse aura un œil sans pitié pour son frère, pour la femme qui repose sur son sein, pour ceux de ses enfants qu'il a épargnés. Il ne donnera aucun d'eux de la chair de ses enfants dont il fait sa nourriture, parce qu'il ne lui reste plus rien au milieu de l'angoisse et de la détresse où te réduira ton ennemi dans toutes tes portes. La femme d'entre vous la plus délicate et la plus habituée à la mollesse, qui par mollesse et par délicatesse n'essayait pas de poser à terre la plante de son pied, aura un œil sans pitié pour le mari qui repose sur son sein, pour son fils et pour sa fille. C'est difficile à imaginer, mais c'est ce qui va se produire. Elle ne leur donnera rien de l'arrière-fait sorti d'entre ses pieds et des enfants qu'elle mettra au monde, car manquant de tout, elle en fera secrètement sa nourriture, au milieu de l'angoisse et de la détresse où te réduira ton ennemi dans tes portes. C'est difficile de lire ces passages et nous préférons souvent ne pas les lire. Mais il est important que nous sachions ce qui est écrit. Si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique toutes les paroles de cette loi écrite dans ce livre, et si tu ne crains pas ce nom glorieux et redoutable de l'Éternel ton Dieu, l'Éternel te frappera miraculeusement, toi et ta postérité, par des plaies grandes et de longue durée, par des maladies graves et opiniâtres. Il amènera sur toi toutes les maladies d'Égypte devant lesquelles tu tremblais, et elles s'attacheront à toi. Et même l'Éternel fera venir sur toi jusqu'à ce que tu sois détruit toutes sortes de maladies et de plaies qui ne sont pas mentionnées dans le livre de la loi, de cette loi. Après avoir été aussi nombreux que les étoiles du ciel, vous ne resterez qu'un petit nombre, parce que tu n'auras point obéi à la voix de l'Éternel ton Dieu. De même que l'Éternel prenait plaisir à vous faire du bien et à vous multiplier, de même l'Éternel prendra plaisir à vous faire périr et à vous détruire, et vous serez arrachés du pays dont tu vas entrer en possession. L'Éternel te dispersera parmi tous les peuples, d'une extrémité de la terre à l'autre, et là tu serviras d'autres dieux, que n'ont connu ni toi ni tes pères, du bois et de la pierre. Parmi ces nations, tu ne seras pas tranquille, et tu n'auras pas un lieu de repos pour la plante de tes pieds. L'Éternel rendra ton cœur agité, tes yeux languissants, ton âme souffrante. Ta vie sera comme une en suspens devant toi, tu trembleras la nuit et le jour, tu douteras de ton existence. Dans l'effroi qui remplira ton cœur et en présence de ce que tes yeux verront, tu diras le matin, puisse le soir être là. Et tu diras le soir, puisse le matin être là. Et l'Éternel te ramènera sur des navires en Égypte, et tu feras ce chemin dont je t'avais dit, tu ne le reverras plus. Là, vous vous offrirez en vente à vos ennemis comme serviteurs et comme servantes, et il n'y aura personne pour vous acheter. J'ai voulu lire ces versets car il est rare qu'on les lise. Deutéronome 28 est un chapitre clé qui prouve que notre avenir dépend de nos choix. Il est question de cause à effet et non de prédestination dans le mot que l'on donne, dans le sens que l'on donne généralement à ce mot. La Bible abonde en exemples indiquant le résultat ou les fruits des actions des êtres humains. Nous avons le choix. Nous ne sommes pas prédestinés à réussir ou à échouer. Résumons ce que nous venons de voir. Le mot grec proorizo, P-R-O-O-R-I-Z-O, a un sens général. Toute définition de dictionnaire est générale et générique. Le sens de n'importe quel mot dépend en grande partie du contexte dans lequel il est utilisé. Et les traducteurs n'ont pas toujours bien traduit certains mots, ayant des idées préconçues et leur compréhension reflétant les idées qu'avaient les gens à leur époque. En somme, ce que Paul a voulu dire dans Romains 8, 29 et 30, c'est que Dieu a décidé d'avance qu'il appellerait ceux qu'il choisirait. Il a aussi décidé d'avance de les rendre semblables à son Fils, afin que celui-ci soit l'aîné d'un grand nombre de frères. Ceux pour qui Dieu a pris d'avance cette décision, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi rendus justes ou justifiés devant lui. Ceux qu'il a rendus justes, il leur a aussi donné part à sa gloire. Ceux qu'il a appelés forment un groupe à part. Ils doivent faire leur part pour hériter le royaume. Ils doivent faire les bons choix. À nouveau, nous sommes responsables de ce que nous faisons. Si nous faisons les mauvais choix, nous pouvons nous en repentir, c'est vrai, mais les conséquences sont toujours là, n'est-ce pas? La Bible met l'accent sur nos choix et elle indique clairement que notre sort final dépend de nos choix. La prédestination n'est pas le facteur qui détermine qui sera sauvé. Le salut est un don de Dieu, un cadeau de Dieu. Nous ne le méritons pas, mais Dieu, dans son amour immense, nous le donne, à condition évidemment que nous décidions de faire tout notre possible pour lui obéir. Dans l'épître de Paul aux chrétiens de Rome, nous trouvons la déclaration suivante. Romains chapitre 6, verset 23. Romains chapitre 6 et le verset 23, vous connaissez le passage. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Nous connaissons ce verset, c'est un verset clé. Tous les êtres humains, depuis Adam et Ève, ayant péché, comme cela est répété ou confirmé dans Romains 3, 23, tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu, et Romains 5, 12, tous les êtres humains ont l'amende imposée à chacun qui est la mort éternelle. Romains 6, 23 précise également que la vie éternelle, le salut, est un don de Dieu à l'humanité. Ce don est possible grâce à Christ et en Christ. L'apôtre Pierre, parlant de Jésus-Christ, a écrit ceci, Actes chapitre 4 et le verset 12. Actes chapitre 4 et le verset 12. Tôt ou tard, tous les êtres humains devront comprendre cela, accepter cela. C'est le seul moyen pour eux d'être sauvés. Actes chapitre 4 et le verset 12. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Un jour, il n'y aura plus ces centaines ou ces milliers de religions différentes. Tous les hommes comprendront qu'il n'y a qu'un chemin, qu'une seule voie, qu'une seule religion. S'ils veulent être sauvés, il n'y a qu'un seul moyen pour le faire, un seul moyen d'y parvenir. Le salut est un don qui n'est accordé par Dieu que par Jésus-Christ, et serait-il logique que le sort de chaque être humain ait été décidé d'avance par Dieu, peu importe leurs choix, leurs idées et leurs comportements? Cela voudrait dire que des millions de personnes qui n'ont jamais entendu parler de Christ ne pourraient être sauvées? D'après ce qu'on nous dit, une fois morts, ces êtres seraient perdus à jamais? Est-ce possible? Est-ce ce que Dieu a prévu d'avance? A-t-il prévu que certains seraient sauvés et la majorité perdue à jamais? L'apôtre Pierre répond à cette question. 2 Pierre chapitre 3 et le verset 9. 2 Pierre chapitre 3 et le verset 9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Et quand on connaît le sens biblique de la repentance, on sait que la repentance est la clé pour être du côté de Dieu, pour faire les bons choix et pour être sauvé. Si le désir de Dieu est qu'aucun ne périsse, qu'a-t-il prévu pour l'humanité ? C'est uniquement par Christ que le salut est rendu possible. Par conséquent, il faut que tous, à un moment donné, comprennent cette vérité et aient la possibilité d'échapper à la mort éternelle, qui n'est pas décidée d'avance. Nous avons un choix. Aujourd'hui, le don divin du salut n'est offert qu'à quelques personnes. Néanmoins, d'après la Bible, à une époque encore future, le salut sera offert au restant de l'humanité. Dieu appelle les gens à la compréhension de ce qui est nécessaire pour recevoir le salut, mais il n'appelle pas tout le monde aujourd'hui. Il a un plan de salut précis pour tous les hommes. Ce plan consiste à en appeler un certain nombre en premier, puis la majorité beaucoup plus tard. Tous ne sont pas appelés maintenant ou en même temps. Et Dieu n'a pas appelé les meilleurs, ni les plus doués, ni les plus riches ou les plus célèbres. Vous vous souvenez du passage, 1 Corinthiens 1:26. Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles, etc., etc., etc. Vous pouvez suivre le restant, lire le restant. Jésus a qualifié son Église de petit troupeau, Luc 12, 32. Il n'a pas parlé d'une grande Église ayant des millions, voire des milliards d'adeptes. Non, il a parlé d'un petit troupeau. Et il a déclaré, « Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. » Autre verset clé, Jean 6, 44, il répète cela au verset 65. Pourquoi Dieu appelle-t-il seulement un petit nombre de personnes à présent? Ceux que Dieu appelle maintenant sont ceux qui sont appelés selon son dessein, comme cela est expliqué dans Romains 8, 28, je ne m'y reporterai pas. Mais ils sont formés à travers diverses épreuves pour développer le caractère juste de Dieu. En effet, comme c'est écrit dans Actes 14 et le verset 22, Actes 14, 22, c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. La vie chrétienne n'est pas facile. Mais vous et moi, nous avons fait un choix. Il y a un certain nombre d'années ou plus récemment, peut-être pour d'autres, nous avons pris la décision d'obéir à Dieu, de tout notre être. Nous ne sommes pas parfaits, mais nous faisons le mieux que nous pouvons. Et Dieu le sait. Un caractère juste développé en surmontant des épreuves ou même des tribulations est nécessaire pour régner sous Christ dans son futur royaume. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, a dit Christ dans Apocalypse 3, 21. Apocalypse 3, 21. Ce royaume sera établi sur terre. Tu nous as fait rois et sacrificateurs à notre Dieu et nous régnerons sur la terre. Apocalypse, chapitre 5, verset 10, version Osterwald. Dieu avait prévu d'appeler un groupe de gens avant les autres. Dans la Bible, il les appelle ses prémices. Il a prévu cela avant la fondation du monde. Avant la fondation du monde. Comme on peut le lire dans 2 Timothée 1:9, et nous pouvons nous reporter à ce passage, 2 Timothée 1:9, Dieu nous a sauvés, il nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels. Dieu avait prévu ce plan avant les temps éternels, il y a très longtemps, il avait prévu ce qui se passerait, il savait ce qu'il ferait. Et dans ce sens, nous croyons à la prédestination, dans ce sens-là, dans le sens biblique, et non pas dans le sens que le monde donne à ce mot. Ceux que Dieu appelle maintenant, selon son dessein, il a prévu d'avance qu'ils deviennent des frères de Jésus-Christ. et qu'ils vivent dans le même état glorieux que lui. Ceux que Dieu a prédestinés à être attirés maintenant sont appelés les prémices, les premiers dans la moisson spirituelle de l'humanité. Leur salut est disponible d'abord, puis plus tard ce sera le tour du restant et de la majorité de l'humanité. Comme Jacques a dit, pour le moment, nous sommes les prémices. Jacques a écrit qu'il nous a engendrés selon sa volonté, par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ses créatures. La chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. Ceux qui sont appelés par Dieu maintenant, qui sont prédestinés dans le sens biblique de ce mot, selon sa volonté, selon la définition biblique de la prédestination, hériteront le royaume de Dieu en premier. Mais pour recevoir cet héritage, ils doivent changer, être transformés, d'êtres humains mortels à l'état glorifié et immortel de Jésus-Christ. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 49. 1 Corinthiens chapitre 15 et le verset 49. De même que nous avons porté l'image du terrestre, Adam, nous avons porté l'image d'Adam, nous porterons future l'image du céleste, Jésus-Christ. Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous, nous serons changés, car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité, et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité, et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite, la mort a été engloutie dans la victoire. Les prédestinés appelés à hériter le salut en premier, ou les premiers prévus, pourrions-nous dire, les premiers prévus, ceux qui sont encore en vie au retour de Christ, ainsi que ceux qui sont morts en Christ, seront changés d'êtres humains mortels en êtres immortels comme Christ. Cela se produira lorsque Christ reviendra sur terre. Et c'est très encourageant. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 16, 1 Thessaloniciens chapitre 4 et le verset 16. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons avec le Seigneur, toujours avec le Seigneur. La prédestination, version biblique, fait partie du plan divin parfait de salut pour toute l'humanité et se réfère au moment de l'appel de Dieu. La prédestination, telle que la conçoit la Bible, n'enlève à personne son libre arbitre, sa liberté de choix. Ce plan divin prévu d'avance concerne surtout ce que Dieu appelle maintenant dans l'ère présente. Ils sont les précurseurs ouvrant la voie à la majorité des êtres humains qui héritera à son tour de toutes choses. Apocalypse 21, 7. Sous le gouvernement de Christ, dans le royaume de Dieu. Notons bien les éléments suivants à propos de la prédestination telle que la conçoit la Bible. Premièrement, la prédestination est quelque chose qui plaît à Dieu. Quelque chose qui plaît à Dieu, comme nous l'avons lu dans Éphésiens 1, 5, il y a quelques minutes, Dieu nous a prédestinés dans son amour, à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. C'est quelque chose de positif. Deuxièmement, d'après la Bible, les êtres humains ont le libre arbitre. Ils font des choix, ils sont responsables de ce qu'ils choisissent. Et en fonction des choix qu'ils font, ils sont ou bénis ou maudits. Ils ne sont pas programmés d'avance comme des robots ou des automates. Quand la Bible parle de prédestination, elle ne dit pas que les humains n'ont pas le pouvoir de choisir. Nulle part il est question de cela, de la Genèse à l'Apocalypse. Quand dans la Bible il est question de prédestination, il est toujours question d'être sauvé et non condamné. Cette dernière est toujours quelque chose de positif. Quatrièmement, quand la Bible parle de prédestination, elle fait allusion à la méthode que Dieu a choisie pour permettre aux êtres humains d'entrer dans son royaume. Elle ne parle pas des individus qui seront sauvés. Nous pouvons entrer dans la famille divine grâce à un plan précis que Dieu a mis en branle avant la fondation du monde. C'est ce qu'il a prévu d'avance, longtemps d'avance. Dieu a prévu d'avance, il y a longtemps, qu'il aurait une famille. Il n'a pas nécessairement prévu que tous les êtres humains, sans exception, feraient un jour partie de cette famille, mais il a appelé suffisamment de personnes au fil des siècles pour réaliser son plan. À nouveau, nous avons tous un choix. Certaines personnes feront le mauvais choix, décideront que le royaume de Dieu, cela ne les intéresse pas. Vous avez des gens aujourd'hui qui sont des athées et qui ne veulent rien avoir à faire avec Dieu ou la religion. Et il y a des indications dans les évangiles que certains étaient déjà responsables, savaient ce qu'ils devaient faire, mais refusaient de le faire. Donc si en pleine connaissance de cause nous refusons d'obéir à Dieu, eh bien nous ne pourrons pas entrer dans son royaume. La prédestination ne concerne pas que nous, ou les appeler au fil des siècles. Elle concerne aussi des milliards d'individus qui revivront un jour. Dieu a prévu qu'eux aussi aient la possibilité d'entrer dans sa famille. Dieu a donc prévu d'avance que beaucoup d'êtres humains seraient sauvés, mais nous sommes libres de choisir ce que nous allons faire. Il y a, de la Genèse à l'Apocalypse, comme je le répète, il est question pour les humains de libre choix. Il est question de cause à effet, ce qui est probablement le mieux résumé dans le passage de Deutéronome chapitre 30 et le verset 19. Et revenons sur ce passage que nous avons déjà lu antérieurement, mais c'est un peu une clé ici. Cela nous explique finalement ce qu'il faut bien comprendre. Cette question de choix. Alors, Deutéronome chapitre 30 et le verset 19. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Pour terminer, je voudrais vous lire une citation de la poétesse et femme de lettres française du XIXe siècle, Constance de Théis. À mon avis, ce qu'elle a su dire c'est que nous avons une part de responsabilité. Et cela, c'est de cela qu'il est question et de prédestination aussi dans le passage que je vais vous lire. Nous sommes responsables de nos actions. Voilà ce qu'elle dit, voilà ce qu'elle écrit. Et trouvez cela intéressant. On parle sans cesse de la destinée. Les uns y croient, les autres la nient. On l'applique tour à tour aux choses et aux hommes. Certes, on ne peut douter qu'il n'y ait une destinée, c'est-à-dire un grand enchaînement de causes et d'effets qui conduit tout vers un but que notre œil ne peut apercevoir. Mais ce que les hommes appellent leur destinée est autre chose et doit être expliqué différemment. Notre destinée n'est pas dans les événements, elle est dans notre caractère. Intéressant, elle a perçu cela. Elle est dans notre caractère, dans l'entraînement involontaire de nos esprits, dans une volonté ferme et constante portée sur un seul point et formée de la réunion de tout ce que nous éprouvons. Cet enchaînement est en effet une sorte de pouvoir contre lequel tout vient se briser. Raison, remontrance, intérêt personnel, rien n'arrête réellement ce torrent qui poursuit sa course à travers les écueils comme poussé par un ascendant supérieur. C'est ainsi que l'on voit des gens se précipiter malgré tout à leur perte. D'autres s'élever en dépit des obstacles à une hauteur que l'on ne peut comprendre. Mais quoi qu'il puisse leur arriver, ce ne sont pas les événements qui se disposent pour ou contre eux. Pour ou contre eux, ce sont eux, au contraire, qui profitent des moindres événements pour arriver au but qu'ils ont toujours devant les yeux. Ce n'est pas la destinée qui les pousse. C'est une force qui est en eux, qui provient d'eux, de leur disposition morale, de leur organisation peut-être, dont les effets nécessairement bornés et passagers finissent avec eux et que l'orgueil seul des hommes a pu rattacher à la marche invariable des grandes destinées du monde. Intéressant ce qu'elle dit ici. Vous et moi, nous sommes responsables de nos actions. Puissions-nous faire les bons choix, obéir à notre Père céleste et récolter la vie éternelle dans le bonheur parfait, en tant qu'être spirituel et en tant que membre de la famille divine. Je vous souhaite à tous bon courage, bonne fin de sabbat, et je vous dis au revoir et à bientôt.